Bien volontiers. Bonjour. Je vais peut-être quand même repréciser deux, trois choses qui sur mon compte, parce que ça peut éclairer les choses. Je suis d'abord pas un scientifique, je suis un praticien, à peu près en fin de carrière. J'ai effectivement une formation comme géographe et je représente ici le Forum transfrontalier qui, depuis une dizaine d'années, se pose pas mal de questions autour de la question de la frontière et de la manière de faire vivre les régions qui vivent de part et d'autre de l'arc jurassien franco-suisse comme objet principal. J'ai effectivement une activité à Nyon aujourd'hui, c'est-à-dire en pointe du secteur que vous venez de voir, à proximité de Genève. Je vais en parler un peu parce que je pense que ça a quelques importances. J'ai travaillé pendant à peu près 15 ans, un peu moins de 15 ans, sur l'arc jurassien lui-même, dans la région de Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Morteau, Les Fins et Besançon. Donc j'ai un regard de praticien et on a essayé avec le Forum transfrontalier de se poser un certain nombre de questions. Et la question de l'économie résidentielle et présentielle nous a paru assez riche et porteuse de réflexions. On s'est inspiré en particulier, enfin Olivier Crevoisier en a parlé ce matin, il a développé un peu le sujet. Nous, on s'est inspiré d'un auteur français qui s'appelle Davezy, un géographe important à nos yeux, qui a essayé d'expliquer qu'en fait, quand on travaillait sur les développements des territoires, travailler sur l'idée du produit intérieur brut n'avait à peu près aucun sens quand on quittait l'échelon national, qu'il fallait absolument introduire d'autres méthodologies quand on entrait dans la problématique des régions. Et c'est à cet égard qu'il a réactivé une théorie qui s'appelle la théorie de la base. Vous l'avez vu apparaître sur les slides de ce matin. Et cette théorie de la base, finalement, tente de dire que, comme l'a démontré Olivier Crevoisier, la question du revenu est un élément peut-être plus important que le fait de disposer d'emplois. Et c'est là que, probablement que la discussion va devenir intéressante. On peut, à partir de ce début de questionnement, dire qu'il y a en fait trois types d'activités. Je suis évidemment caricatural dans le discours, mais dire qu'il y a à peu près trois types de revenus qui peuvent être envisagés dans une région. Le revenu dit de l'économie domestique, c'est-à-dire des services à la population qui s'exercent dans le territoire lui-même. Morteau délivre un certain nombre de prestations à ses habitants, que ce soit le boulanger, que ce soit le boucher, que ce soit l'artisan qui travaille sur les constructions du site, le médecin lui-même. Il y a une autre approche qui est extrêmement importante sur la frontière, et c'est probablement celle-là qu'on va développer plus longuement. C'est celle que moi j'appellerais d'hébergement des revenus, c'est-à-dire des acteurs qui résident dans une commune, mais qui vont travailler ailleurs, donc qui se bougent dans le territoire. Et c'est ce qu'on appellera plus précisément l'économie résidentielle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse que les gens consomment sur le lieu où ils résident et non pas sur le lieu où ils travaillent. Et puis, il y a une partie aussi importante qui peut provenir de ce que moi j'ai appelé ou ce que j'appellerais la captation de revenus, c'est-à-dire l'économie touristique en gros, ou l'économie d'achat, le tourisme d'achat, comme on l'a évoqué, 180 000 habitants, équivalents habitants pour des centres commerciaux à Pontarlier, ou 120 000, pardon, par rapport à des centres commerciaux à Pontarlier, par rapport à la taille de la ville, manifestement, on arrive à créer, à capter du revenu avec ce mode opératoire. On l'a dit tout à l'heure, des petites localités du côté français, des tailles un tout petit peu plus importantes du côté suisse. Peut-être qu'il faut faire un brin d'histoire ici pour resituer le problème et voir pourquoi ça évolue dans le temps. Je ferai peut-être un mot en passant parce que sinon je vais l'oublier. On a entendu parler du Luxembourg ce matin et de l'effet frontière entre le Luxembourg et la France. Je pense qu'avec l'exemple suisse, on est dans un modèle encore beaucoup plus important. Jean-Jacques Delémont, qui est là, me le rappelait tout à l'heure. En fait, on a une vraie frontière institutionnelle. Vous savez qu'on n'est pas dans l'Europe, à l'opposé du Luxembourg, ce qui veut dire qu'il y a une démultiplication de l'effet frontière dont il faut tenir compte dans l'analyse des phénomènes qu'on va voir. Je pense qu'on a une atténuation probablement, en lien avec le modèle institutionnel, on a probablement une atténuation de l'effet frontière sur les frontières actuelles des pays membres de l'Europe. Alors, au niveau historique, on a un moment clé dans l'histoire récente de cette région, c'est la crise horlogère qui va agiter le territoire suisse, où le marché d'exportation de la montre va s'effondrer dans les années 70 du XXe siècle, et qui va en fait poser un problème tout à fait clair. Avant la crise horlogère, on a une population qui réside et qui travaille sur le même site, c'est-à-dire on a une croissance des villes de l'arc jurassien suisse, le Loc, la Chaux-de-Fonds en particulier, qui est quasiment endogène, c'est-à-dire on a peu d'apports de main-d'œuvre étrangère qui va venir s'installer sur ces territoires. Avec la crise horlogère, l'effondrement de cette industrie, qui d'ailleurs a muté à peu près dans la même période, Olivier Crevoisier en faisait état ce matin, d'un instrument utilitaire qui nous donnait l'heure finalement, on avait besoin de savoir à peu près à quel moment on vivait. L'objet montre est devenu un produit de luxe, puisque, comme on le rappelait Olivier Crevoisier, la montre au poignet n'est plus nécessaire, puisque nos téléphones nous donnent toutes les informations nécessaires, y compris une heure beaucoup plus précise que les montres que nous portons au poignet, si elles sont mécaniques d'autant plus. Donc on vit une mutation à ce moment-là avec l'effondrement du marché horloger ou de l'industrie horlogère, une perte d'emplois extrêmement importante avec des gens qui ne reviendront pas dans ce travail. Ils vont quitter ce monde professionnel et finalement c'est l'industrie horlogère française ou la main-d'œuvre horlogère française qui va traverser la frontière et devenir des pendulaires quasi quotidiens pour occuper ce territoire en termes de production, tout en restant et en demeurant résident en France. Pourquoi ? Ben, il y a plusieurs facteurs qui nous paraissent pouvoir être évoqués. Si les salaires suisses sont versés, qui ont un différentiel, on l'a vu au niveau du taux de change et des proportions finalement des salaires qui sont servis, si les revenus sont des revenus suisses, la consommation, qu'elle soit dans l'achat de bâtiments ou dans la consommation propre, est beaucoup plus intéressante du côté français. Donc les frontaliers n'ont strictement aucun intérêt à traverser la frontière. D'autant qu'en système institutionnel suisse, le frontalier devait rentrer dans un passé encore relativement récent tous les soirs en France. Vous ne pouvez pas résider sur territoire suisse. Alors aujourd'hui, on a un peu assoupli la règle. C'est-à-dire qu'on peut résider en France durant la semaine et en Suisse pendant la semaine et rentrer le week-end. Il y en a très, très peu qui le font pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, qu'est-ce que ça provoque, cet élément, sur le territoire spécifique de l'arc jurassien dans la région de Morteau? Mais ça vaut pour la région de Nyon, dont je parlerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure. On est dans la même logique. La capacité financière des frontaliers va modifier profondément les conditions d'accès à la propriété individuelle ou au logement de manière générale et donc créer un effet de distorsion qui va affaiblir le pouvoir d'achat des résidents français qui ne quittent pas le territoire avec des salaires français se trouvent dans une situation d'affaiblissement. Donc on a un mode de sélection sociologique probablement qui est en train de se mettre en place ou qui s'est déjà mis en place de manière assez importante. Évidemment, il y a un élément qui fait qu'il y a une politique d'aubaine. La situation économique est favorable dans cet échange pour l'instant. Mais puisqu'on a vécu une crise, il n'y a pas de raison qu'on n'en revive pas peut-être un jour. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas dans cette... qu'on ne soit pas inquiet. Hein. Il n'y a pas d'hypothèse qui nous permettrait de dire que l'horlogère devrait s'effondrer. Bien au contraire, puisque les marchés sont en train de s'ouvrir pour des populations qui étaient considérées comme à faible potentiel de revenus, le monde asiatique en particulier. Et quand on demandait pourquoi les horlogers faisaient autant d'efforts pour aller dans le monde asiatique, la réponse était relativement simple. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens riches, mais ils sont toujours beaucoup plus nombreux que chez nous. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens riches, mais ils sont toujours beaucoup plus nombreux qu'en Europe. Donc l'attrait de l'exportation devrait se poursuivre, puisque de fait, il y a des correcteurs qui sont en train de se mettre en place sur les différentes nations qui composent ce site. Il y a un problème malgré tout dans ce que je viens d'évoquer qui est pas négligeable, c'est que les collectivités locales ne s'y retrouvent pas. Alors, elles ne s'y retrouvent pas parce que y a un différentiel de frontières qui va finalement rendre le modèle un peu moins attrayant. dans le sens où la fiscalité, je généralise et je caricature, ça mériterait des précisions, mais la fiscalité en Suisse, elle est calculée sur le revenu des personnes. La fiscalité en France, elle était plutôt ciblée jusqu'à Sarkozy, probablement. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé depuis, la fiscalité des entreprises. Or, ce qu'on a fait avec la dynamique horlogère qui s'est faite du côté suisse, c'est qu'on a vidé le territoire industriel proche de la frontière. Il est quasiment vide au niveau horloger. On en parlait encore à midi tout à l'heure. Il n'y a quasiment plus d'horlogers ou d'entreprises, très faible, très peu d'horlogers du côté français, alors qu'on a plus de 11 000 travailleurs qui viennent occuper des places de travail dans la partie neuchâteloise pour nous concentrer que sur celle-là. Ce qui veut dire que les collectivités publiques n'ont pas précisément les moyens d'entretenir les infrastructures dont elles disposent. Il y a un effondrement qui s'est passé, ou de répondre à la demande de croissance que certaines villes parlent. Je pense que M. Vauffray en parlera beaucoup mieux que moi sur cette capacité d'investissement des collectivités locales vu le modèle français de la fiscalité. On a une situation qui, à cet égard, est assez problématique pour les collectivités, mais en même temps très favorable pour les individus, puisqu'elle elle a un double mécanisme. Ce n'est pas la population locale des régions de l'arc jurassien qui alimente le marché suisse de l'emploi, mais c'est aussi une population qui vient de beaucoup plus loin. On me racontait à l'époque de Mme Genevard, lorsqu'elle était maire, que des Bretons venaient s'installer dans la région de l'arc jurassien de manière à tirer profit, finalement, d'un système qui était relativement favorable au niveau économique. Alors, ceci étant dit, c'est en gros l'évolution auquel on a assisté ces derniers temps. Parlons un peu de mobilité, puisque c'est quand même ça l'objet. Évidemment, lorsque vous êtes pendulaire, il y a une mobilité qui doit s'installer entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Et on pourrait distinguer 3-4 facteurs. Moi, j'en distingue 4 quant à la nature de cette mobilité. Il y a d'abord, évidemment, la question du motif. Pourquoi est-ce qu'on se déplace? Alors, c'est vrai que dans l'arc jurassien, on a probablement une part relativement importante de la mobilité qui est liée au travail. J'ai quelques chiffres pour la Suisse, j'en ai pas du tout pour la France, et je vous prie de m'excuser, que certains pourront peut-être le compléter dans la discussion de tout à l'heure, mais sur les actifs en Suisse, on considère aujourd'hui qu'il y a en gros 70% de la population, 66%, ou 70, pour parler français, 66% de la population qui se déplace quotidiennement pour se rendre de son domicile à son travail. Ce qui est assez conséquent, ce qui veut dire qu'il faut avoir des réseaux qui résistent, et ça, c'est une autre question. La deuxième question qui peut se poser, c'est celle de la... J'hésite entre la question de la durée et de la distance, les deux ne sont pas assimilables. La question de la distance, on considère en Suisse qu'en gros, la distance moyenne de déplacement, la distance jusqu'à laquelle on va en règle générale, c'est 50 km de déplacement quotidien pour un sens, pas pour deux sens, pour un sens. Un sens de déplacement, je peux penser qu'en France, on est presque dans les mêmes logiques. Si on reprend les cartes d'Alexandre Moine, probablement que ça se passe dans une bande qui est de l'ordre de 60 km au maximum. Donc la question de la distance des 50 km nous paraît assez pertinente. Évidemment, il y a un deuxième facteur qui n'est pas celui que de la distance, mais qui est celui de la durée. C'est combien de temps je mets pour faire cette distance. Et là, le temps s'est un peu accru, en Suisse en tout cas. Je pense qu'il s'est beaucoup accru sur la frontière. Il s'est un peu accru. On est de l'ordre de l'heure à peu près aujourd'hui par sens de déplacement. 50 km, une heure, compte tenu des modes de déplacement dont on va parler. Il est évident que j'en distinguerai que deux des modes de déplacement, c'est le train et la voiture, évidemment. Aujourd'hui, dans la région de l'arc jurassien, je pense qu'on peut dire, on verra ce que dit M. Réa tout à l'heure, mais je pense que le transport public n'existe pas du côté français. Pour une raison assez simple, c'est que l'air, le bassin d'approvisionnement de la main-d'œuvre, il est très diffus. On a vu, c'est des petites localités. qui atteignent un maximum de 7000 habitants à proximité de la frontière. Ce qu'on constate aussi, mais là je crois que Alexandre Moine pourrait le démontrer mieux que moi, puisqu'il avait sorti une carte sur le pendularisme ou les navetteurs à l'époque, l'air est en train de s'agrandir. Hein. On est en train de rentrer dans le territoire. Il relevait d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il me corrigera au besoin, qu'un certain nombre de navetteurs provenaient de Besançon aussi, ce qui veut dire une distance assez conséquente pour se rendre sur leur lieu de travail qui est situé dans l'arc jurassien. Alors on a là quatre aspects relativement clairs. Un temps de déplacement qui va s'accroissant parce que si on a une aire de collecte, on a un entonnoir à la sortie, c'est un axe. Ce point est un point de concentration de trafic qui pose d'énormes problèmes. J'ai dit que je travaillais dans la région de Nyon. Le Grand Genève, c'est quelque chose qu'on connaît. On a exactement les mêmes problèmes au passage de frontières de Bardonnay ou d'ailleurs. C'est des points de concentration sur lesquels, évidemment, quotidiennement, on n'est plus à des exceptions, mais quotidiennement, à l'heure de pointe, ces réseaux sont saturés et on roule au pas. Si vous êtes au local de temps en temps, fait qu'on a une situation un peu particulière. J'aimerais citer l'exemple de Nyon. Nyon a vu fleurir une entreprise horlogère qui s'appelle Hublot un jour. On s'est toujours demandé pourquoi elle était venue là. Je pense qu'on n'a pas la réponse parce qu'on ne nous le dira pas, mais si je fais l'analyse qui consiste à dire que la région horlogère naturelle, qui sont les montagnes neuchâteloises pour la Suisse, s'approvisionne sur le marché français, qui forme d'ailleurs excellemment bien les horlogers, tout le monde le reconnaît. Pouvoir s'approvisionner sur un marché qui est constitué de morets, les rousses, comme lieu de captation de main-d'œuvre. Donc on a une situation qui est relativement intéressante. On a donc une mobilité fondamentalement, d'après les observations qu'on peut faire, focalisée sur le transport individuel motorisé, une offre en transport public qui est très très faible et qui probablement a de la peine à se densifier, à s'augmenter. On l'a vu, trois rames de train sur la région de Morteau et la suite, c'est l'explication que finalement on n'arrive pas à aller à capter les emplois et que faire tourner des trains de manière intéressante et fonctionnelle n'est pas très grande. Du côté de Genève, on est dans une situation un tout petit peu différente puisque Genève s'est enfin réveillée. Parce qu'elle vit un double phénomène, en fait. Elle fait de la captation d'actifs du côté français, mais elle exporte des actifs qu'elle a chez elle vers la France, puisqu'on considère qu'un certain nombre de gens ont une qualité de vie meilleure s'ils s'installent en France, pour les questions de pouvoir d'achat. Donc il y a une population genevoise qui a migré dans le Genevois, ce qui fait que les communes françaises se sont un peu révoltées en disant « vous êtes bien gentils de nous envoyer des gens ». Mais nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est des entreprises. Donc faites des efforts pour développer des entreprises. Alors, pour le moment, le mécanisme n'a absolument pas fonctionné. On n'a pas exporté. Donc, il y a des bus à haut niveau de service qui sont en train de... Pour dire que ces mécanismes de pendularité se sont établis dans une situation qui a appauvri les collectivités suisses, et je m'en plains pas, c'est un constat, c'est un état de fait. De par le fait qu'elle a pu trouver de la main-d'œuvre sur le côté français qui vide une certaine aubaine, et fort heureusement pour cette région, et on ne peut que s'en réjouir, mais qu'en même temps, les collectivités locales ne s'y retrouvent pas vraiment. C'est-à-dire une ville comme Chaux-de-Fonds a hérité, après la crise horlogère, d'un espace de 35 000 habitants ou occupés par 35 000 habitants et en même temps n'arrive plus aujourd'hui à faire fonctionner l'infrastructure à la hauteur où elle le souhaite. Alors, ces éléments-là étant donnés, il y a une question qui évidemment devrait se poser, c'est comment est-ce qu'on peut profiter de cette situation favorable. Les réponses, elles ne sont pas simples parce que les approches institutionnelles sont effectivement très différentes, soit en territoire suisse, soit en territoire français. La Suisse, par son côté fédéraliste, a un pouvoir de décision qui se trouve dans les cantons, qui est relativement élevé. Les cantons peuvent avoir des relations internationales, donc passer des accords avec le territoire français. est une chose relativement importante. C'est comme si une région ou un département pouvait contracter dans deux secondes. C'est comme si le territoire français pouvait contracter avec... Enfin, le territoire suisse pouvait contracter avec un département ou une région française. Dans ce cas-là, ça n'est pas possible. Donc, il y a une grande difficulté d'aller résoudre les problèmes parce que les intérêts de l'État central français ne sont pas précisément ceux de la périphérie qu'on rencontre et n'a pas connaissance des difficultés que vit l'espace frontalier. Alors que sur les cantons suisses, on arrive peut-être à une meilleure option. Il y a une deuxième des choses, je pense, sur lesquelles il y a un gros intérêt à développer dans le futur, dans la perspective de la captation des revenus, pour essayer de diversifier les sources de revenus, justement, c'est de travailler sur le tourisme. Olivier Crevoisier en a parlé un tout petit peu ce matin. Les parcs naturels régionaux devraient être une option relativement intéressante. Je ne suis pas sûr que ça prenne un gros volume ou offre un gros volume d'emplois, mais ce serait une manière de capter du revenu produit ailleurs que dans la région et de résidents ailleurs que dans la région. Ça veut dire de dropper une économie locale, domestique, qui est susceptible de s'accroître. On y travaille depuis de très longues années. Je vous ai dit que j'avais travaillé un peu dans l'arc jurassien il y a quelques années. Ça fait bientôt plus de 10 à 15 ans qu'on essaye d'activer le parc jurassien. Comment il s'appelle ? Parc naturel du Jura ? Le parc naturel du Doubs, merci. Parc naturel du Doubs. Il n'a pas encore trouvé, pour des raisons de nouveau institutionnelles, c'est-à-dire de passage de frontières avec les règles qui sont propres à ces secteurs, il n'a pas encore trouvé les bons éléments d'accord, même si l'effort ne se ralentit pas. Alors voilà quelques points qui cadraient un peu la question de...
Merci Bernard. Je passe la parole à Isabelle. Je reste là, je pilote. Ok, très bien, je ne bouge pas. Isabelle va nous dire comment est-ce que ça se passe maintenant pour organiser cette mobilité en général et en particulier dans les zones frontalières. Voilà, je repasse à ton doc.